Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Muratori-Philippe.
Bonjour, pour ce magazine Au fil des pages, je reçois aujourd'hui Françoise Idelsheimer à l'occasion de la publication aux éditions Flammarion de son dernier livre, La double mort du roi Louis XIII. Bonjour Françoise Idelsheimer.
Bonjour.
Conservateur aux archives nationales, conservateur en chef, pardon, et professeur associé à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Françoise Idelsheimer s'est consacrée avec autant de réussite à l'histoire de sa ville, Nice, qu'à l'histoire des maladies et des épidémies, je citerai notamment la peste sous l'Ancien Régime, à l'histoire religieuse, et là je retiendrai surtout le jansénisme, histoire et héritage, ainsi qu'à l'histoire politique, avec notamment du siècle d'or au grand siècle, l'État en France et en Espagne au XVIe et XVIIe siècle, un ouvrage où deux hommes d'État se dévoilent, Richelieu et Olivares. Richelieu fascinait Françoise Idelsheimer depuis plusieurs années, puisqu'elle avait déjà écrit un Richelieu, une certaine idée de l'État, en 1985, avant de lui consacrer l'année dernière une magnifique biographie qui, à l'époque, avait fait l'objet d'une émission sur Canal Academy. Aujourd'hui, La double mort du roi Louis XIII n'est pas une biographie, c'est l'analyse d'une période du règne de Louis XIII que vous appelez l'année du roi. Pour quelle raison ?
Pour la raison simple, c'est que cette année 1643 est l'année où le roi va se trouver, pour ainsi dire, en reprenant ses paroles de quelques années auparavant, débarrassé de la tyrannie de Richelieu. C'est donc les quelques mois où il va pouvoir se révéler.
C'est une année qui va durer 6 mois.
Et c'est une année qui va ne durer que 6 mois. Puisque Richelieu donc meurt en décembre 1642 et Louis XIII, dont on aurait pu penser d'ailleurs, parce que c'était deux grands malades qu'il aurait pu le précéder d'ailleurs dans la tombe, mais Louis XIII va mourir en mai 1643. Et curieuse synchronicité d'ailleurs, le jour anniversaire de la mort, de l'assassinat de son père Henri IV.
Alors Victor Hugo dit dans Marion de Lorme à propos du roi triste sire et à propos de Richelieu, cardinal flamboyant. Et donc ce triste sire, qui se cache derrière le visage de ce triste sire ?
Eh bien, il se cache un personnage, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Et il faut réévaluer le couple du ministériat. Et ces 6 mois montrent bien que Louis XIII n'était pas l'esclave du cardinal, mais que c'est bien lui qui a voulu cette politique, puisque contre toute attente, dès le soir de la mort de Richelieu, il n'y a aucune incertitude, Louis XIII fait immédiatement savoir qu'il continue avec cet inconnu originaire d'Italie qui était apparu pas bien longtemps plus tôt à la cour, le cardinal de Mazarin.
Et quelle est la situation de la France au moment de la mort de Richelieu ?
Bien, la France est en guerre, c'est ça le gros problème. Elle est en guerre contre l'Espagne, puisqu'en 1635, elle est entrée dans la guerre de 30 ans, et elle est en lutte pour la suprématie européenne. Et ça a pour conséquence, malgré tout, la ruine du royaume, puisque face à l'Espagne qui tire ses ressources de ses colonies du Nouveau Monde, la France n'a que ses populations qui subissent un tour de vis sans égal antérieurement. Et donc la France est en proie, malgré tout, à de multiples révoltes populaires. Donc il faut lutter à l'intérieur comme à l'extérieur.
Louis XIII aussi doit lutter à la cour, j'imagine.
Alors la cour est un superbe panier de crabes, bien sûr, puisque d'abord personne ne sait qui du roi ou du ministre va disparaître le premier. Donc cette hypothèque est levée avec Richelieu. Et malgré tout, on sait que le roi n'en a pas pour très longtemps et que va s'ouvrir une régence qui va être très longue, puisque le petit Louis Dieudonné, le futur Louis XIV, n'a pas 5 ans. Donc la régence va être très longue et il va falloir savoir si on continue ou si on ne continue pas la guerre. Et un des pions majeurs, c'est la reine Anne d'Autriche, qui est espagnole et qui, il n'y a pas si longtemps, a été convaincue par Louis XIII et Richelieu de trahison au profit de l'Espagne.
Et Louis XIII est dans quel état d'esprit vis-à-vis de la reine à ce moment-là ?
Alors, ça a toujours été un couple à problème. Et même si la naissance d'un puis de deux héritiers a quand même amélioré les choses, Louis XIII n'a aucune confiance dans sa femme. Et jusqu'à la fin, il va s'efforcer de monter un plan qui, même si la reine a la régence, il s'arrangera pour essayer d'en faire une régente en tutelle.
Et son frère Gaston d'Orléans ?
Même problème, Gaston a participé à toutes les conjurations, complots et autres du règne, et s'il a toujours été pardonné par force, on n'a aucune confiance en lui, à tel point que, dès avant la mort de Richelieu, a été préparé un texte qui l'exclut de toute charge publique, et Louis XIII, dans un premier temps, continue la même politique. À la mort de Richelieu, Gaston n'est pas à la cour.
Alors, Louis XIII est dévot, vous l'expliquez très bien, et il semble être le jouet de ses confesseurs.
Alors, c'est un petit peu plus... La question du confesseur est importante. Le roi est dévot, mais je dirais au bon sens du terme. C'est un chrétien convaincu. Et de caractère, c'est aussi un hyper scrupuleux, jusque presque maladif. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir et significatif qu'il n'a quand même pas hésité à suivre Richelieu dans une politique d'alliance avec les protestants. C'est assez significatif. Mais il a donc des confesseurs, mais Richelieu va les contrôler très étroitement. Et Richelieu bénéficie, j'allais dire, auprès du roi de sa qualité d'ecclésiastique, hein, qui lui donne une influence supplémentaire. Donc Richelieu contrôle très étroitement les confesseurs, et dès qu'ils se mêlent de politique, sous des prétextes divers, d'âge, de surdité, etc., ils sont aussitôt éloignés. Or, ce qu'on va voir, c'est qu'une fois Richelieu disparu, le nouveau confesseur du roi, qui est un très brillant jésuite de l'époque, le père Dinet. D'ailleurs, le père Dinet, on le retrouve à plusieurs... il a été régent de Descartes quand il était au Collège de la Flèche. Et le père Dinet arrive comme nouveau confesseur du roi et aussitôt, il reprend sa place parmi les personnages très proches, et avec Mazarin, avec des gens comme les secrétaires d'État, il va être un des plus proches du roi pendant ces derniers instants.
Alors il y a aussi un autre personnage donc, qui s'impose au roi, et c'est assez étonnant parce qu'on comprend la présence de Richelieu qui est admise, mais Mazarin, cet Italien, comment Louis XIII a-t-il pu être séduit par ce Mazarin ?
Alors, Louis XIII a certainement été séduit par le Mazarin. Le Mazarin qui est donc arrivé à la cour quelques années plus tôt, qui n'a pas le caractère de Richelieu, qui a beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de diplomatie, et qui s'est insinué, mais au bon sens du mot, je dirais, dans les relations qui étaient difficiles à la fin au moment de la fameuse affaire Saint-Marc. C'est lui qui a joué les correspondants entre le roi et Richelieu. Et il faut bien voir que l'idée que Mazarin a été légué à Louis XIII par Richelieu sur son lit de mort est fausse. Louis XIII avait très consciemment adopté, on peut dire, Mazarin bien avant la mort de Richelieu. On peut même penser que si Richelieu avait vécu plus avant, il l'aurait peut-être éclipsé. Et tout le génie alors de Mazarin va être aussi de savoir capter les bonnes grâces de la reine.
Et oui, parce que c'est bien beau d'être proche du roi, mais la reine va compter.
La reine va compter et va compter de plus en plus. Et Mazarin va savoir donc capter les bonnes grâces de la reine, tout en gardant la confiance du roi, lequel, je vous le rappelle, n'avait aucune confiance dans la reine. Et c'est là un tour de force assez étonnant.
Oui, c'est l'habileté.
Oui.
Et alors, le dauphin, au milieu de tout ça, comment est-il avec, avec le roi, avec Mazarin ?
Le dauphin est un petit garçon qui va sûrement garder des images de cette période. On a un texte où on le voit au chevet de son père mourant et il en gardera sûrement une image. Il a toujours eu au fond un père qui était un vieillard d'une certaine manière. Il était très attaché à sa mère, mais il restera sûrement attaché à l'histoire de ce père. D'ailleurs, le meilleur témoignage, c'est Versailles. Louis XIV tiendra à garder le petit château de Louis XIII dans son grand palais. Et Mazarin, il va avoir des relations privilégiées avec Mazarin, puisque immédiatement après avoir réglé, ou croyant avoir réglé les problèmes de la régence, Louis XIII va tenir à faire baptiser son fils. Et là encore, décision totalement inattendue, puisqu'on était en train de négocier avec Rome pour que le pape soit le parrain du dauphin. Le roi va faire de Mazarin le parrain du petit Louis XIV et ça va sûrement créer une relation privilégiée entre les deux.
En fait, il veut renforcer les liens pour protéger son fils.
Certainement. Je pense qu'on peut dire que l'objectif de Louis XIII, ça a été d'assurer le passage de la couronne à son fils dans les meilleures conditions. Et lui-même savait ce qu'était une régence et une régence mouvementée. Il en avait souffert avec Marie de Médicis, les épisodes Concini, etc. Et ce qui est assez passionnant dans ces 6 mois, c'est de voir qu'au fond, si séparés qu'étaient les deux époux Louis XIII et Anne d'Autriche, progressivement, peut-être avec le catalyseur de Mazarin, les deux époux vont se trouver finalement associés dans ce dessein de servir les intérêts du petit roi.
Mais qu'est-ce qui a décidé Louis XIII à organiser la régence ? Parce qu'il a mis du temps, il a hésité.
Alors, il a beaucoup hésité. Dans un premier temps, je pense qu'il s'est pris à rêver de gouverner lui-même et il s'est refusé pendant 2 mois à voir le problème. Puis la maladie l'a rattrapé et il a beaucoup hésité. Il a beaucoup hésité et avec ses conseillers, les secrétaires d'État, les créatures de Richelieu qui étaient restées au pouvoir, il a élaboré un système qui, sur le papier, lui donnait satisfaction, mais qui n'était pas viable. C'est-à-dire que la reine était nommée régente, il se réconciliait avec son frère et le faisait lieutenant général, mais tout était subordonné, tout des grandes décisions, à l'avis d'un conseil de régence qui regroupait les anciens ministres de Richelieu. Et ça, c'était pas possible pour Anne d'Autriche. Donc, ça a été très simple. Le Parlement a très docilement enregistré cette déclaration de régence. Et puis, au lendemain de la mort du roi, l'a tout aussi vite fait oublié pour conférer les pleins pouvoirs à la reine régente.
Alors, je reviens un petit peu en arrière. Pendant ces 6 mois, on voit très bien Louis XIII en train de préparer son départ, sa succession. Et il prend un certain nombre de mesures, notamment il rapatrie la dépouille de sa mère.
Oui. Alors, il y a certainement, avec Marie de Médicis, quelque chose qui touche à la conscience et du roi et de Richelieu. Parce que dans le testament, pas dans le testament politique, mais le testament de Richelieu, la seule clause, comment dire, de conscience qu'il y ait, c'est une justification de son attitude vis-à-vis de Marie de Médicis. Il se défend d'avoir trahi celle par qui il était arrivé au pouvoir. Et aussitôt Richelieu mort, et Marie de Médicis était morte quelques mois auparavant, oui. En exil, oui, à Cologne. Le roi va se préoccuper, d'ailleurs sous l'influence aussi de son confesseur, le père Dinet, de faire revenir la dépouille de la reine. Et on va avoir, à la mort du roi, une sorte de double sépulture à Saint-Denis. La veille des obsèques solennelles du roi, on va descendre Marie de Médicis à côté de Henri IV et Louis XIII va être finalement enterré entre ses deux parents.
Alors, une fois que Louis XIII a organisé la régence, il donne l'impression d'être soulagé.
Oui.
Et là, il change, enfin, il s'occupe en fait de sa propre mort et il se prépare à mourir.
C'est d'ailleurs l'explication du titre que j'ai choisi, voilà. La double mort.
Je crois qu'il faut
Louis
l'expliquer.
XIII. Exactement. Donc, dans un premier temps, il prépare sa mort comme roi. Et une fois qu'il pense avoir réglé le problème, il va se consacrer au deuxième aspect de sa mort, parce que le roi ne meurt pas seulement comme roi, il meurt aussi comme chrétien. Et Louis XIII, étant un chrétien convaincu, il va avoir une fin tout à fait exemplaire. Et le confesseur, évidemment, va à ce moment-là devenir vraiment le premier personnage à son chevet.
Et a-t-il laissé, outre le testament politique et la régence, a-t-il laissé un autre testament ?
Alors ça, c'est assez intéressant. Autant Richelieu, pour suivre le parallèle, a laissé donc un testament avec juste une clause donc sur Marie de Médicis, et puis ensuite c'est à une vingtaine de pages de dévolution de titres et de biens. Louis XIII, pas du tout. Il nous laisse un simple état des aumônes et gratifications dont il veut que bénéficie un certain nombre, d'une part, d'établissements pieux, et deuxièmement, ses proches, ses familiers. Et c'est vraiment son entourage de très proches, les membres de son écurie. Et on voit vraiment la personne du roi sous la forme d'un chrétien familier et ordinaire.
Donc le roi meurt le 14 mai 1643. Que se passe-t-il à ce moment-là ?
Alors le roi meurt et immédiatement, il meurt à Saint-Germain-en-Laye. Immédiatement, tout le monde, toute la cour, dans un embarras de carrosse invraisemblable, prend le chemin de Paris. Parce que la première urgence politique, c'est de montrer le petit roi à sa capitale. Et on prend immédiatement, donc on fait une entrée solennelle dans la ville, au lendemain de la mort du roi, et ensuite on négocie âprement avec le Parlement, justement, non pas de casser le testament du roi, comme on le dit ordinairement, puisqu'il n'y avait pas de testament, il y avait une déclaration, mais que le Parlement oublie donc cette déclaration et veuille bien, au premier lit de justice où vient donc le petit roi en son Parlement, veuille bien conférer la régence avec pleine et entière autorité à Anne d'Autriche.
Alors, le petit roi donc est entouré d'Anne d'Autriche et de Mazarin, mais à ce moment-là, comment Mazarin est-il perçu par la cour ?
Alors, il est justement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au Parlement, Mazarin n'apparaît pas. C'est
et
le
oui.
grand absent.
Voilà.
Et même, il n'est pas tellement assuré encore de son pouvoir. Mais Anne d'Autriche a su parfaitement manœuvrer. Et si le secret est un des ressorts de gouvernement, elle en a usé en maître, puisqu'elle a régler, comme on disait, c'est-à-dire fixer la liste des membres du conseil qui se tiendrait au lendemain du lit de justice, elle l'a réglé la veille au soir et Mazarin y figurait. Donc, au lendemain du lit de justice, on s'aperçoit que Mazarin est toujours au pouvoir et que c'est lui qui, petit à petit, va s'affirmer auprès d'Anne d'Autriche.
Alors donc, pour vous, Françoise Idelsheimer, c'est ces six mois, sans ces six mois, il n'y aurait peut-être pas eu de Roi Soleil.
Alors, peut-être, là, c'est un peu de la politique fiction. Il faut quand même penser qu'il y a eu la Fronde après et que
oui,
tout ne s'est pas
ça.
Déroulé si facilement. Mais il est certain que dans ces six mois, Louis XIII a montré qu'il avait bien une ligne politique et qu'il n'avait pas été le fantoche de Richelieu et qu'il était aussi peut-être le roi le plus chrétien que l'on ait eu en France.
Finalement, il a autant de place qu'Henri IV et Louis XIV dans le panthéon des
il
rois.
Il a simplement eu la malchance d'être, si je puis dire, coincé entre deux personnages, deux personnalités plus brillantes que lui.
Merci Françoise Idelsheimer. Je vous recevais à Canal Académie pour votre dernier livre, La double mort du roi Louis XIII, qui vient de paraître aux éditions Flammarion.